Bord de mer. Il y avait à présent plus de 20 hommes et femmes dans Rama. 6 d'entre eux étaient sur la plaine, tandis que les autres transbordaient équipements et provisions par le système de sas jusqu'au pied de l'escalier. Le vaisseau lui-même était presque désert, seule une équipe aussi réduite que possible étant restée à son bord. La plaisanterie du moment était que le vaisseau était en réalité aux mains des 4 singes et que Goldie avait été momentanément promu au rang de commandant. Pour ses premières explorations, Norton avait arrêté un certain nombre de règles fondamentales. La plus importante datait des tout premiers jours de l'avènement de l'homme dans l'espace. Chaque groupe, avait-il décidé, devrait comprendre une personne d'expérience, mais pas plus d'une seule. De cette façon, il serait donné à chacun d'apprendre aussi vite que possible. Ainsi donc, le premier groupe à partir pour la mer cylindrique, bien que conduit par le médecin commandant Laura Ernst, possédait son propre vétéran de la veille, le lieutenant Boris Rodrigo, qui revenait tout juste de Paris. Le troisième membre, le sergent Pieter Rousseau, avait fait partie de l'équipe de soutien du Moyeu. Il était expert en équipement de reconnaissance spatiale, mais pour cette mission, il lui faudrait se fier à sa seule bonne vue et à un petit télescope portatif. Du pied de l'escalier Alpha au bord de la mer, il y avait juste un peu moins de 15 kilomètres, ce qui, compte tenu de la faible gravité de Rama, équivalait à 8 kilomètres terrestres. Laura Ernst, qui devait montrer qu'elle appliquait ses propres préceptes, menait le train d'un pas vif. Ils s'arrêtèrent 30 minutes à mi-chemin, et ce fut le seul fait notable de cette marche sans histoire. Il était également fastidieux de s'avancer sous le rayon du réflecteur dans l'obscurité sourde et mate de Rama. À mesure que la flaque de lumière progressait avec eux, elle s'étirait en une longue et étroite ellipse. Cette anamorphose de la lumière projetée était le seul signe visible de leur avance. Si, du haut du Moyeu, les observateurs ne leur avaient pas continuellement indiqué les distances franchies, les 3 explorateurs n'auraient jamais pu dire s'ils avaient parcouru 1 kilomètre plutôt que 5 ou 10. Ils mettaient simplement un pied devant l'autre, dans une nuit 1000 fois millénaire, sur ce qui paraissait être une surface métallique d'un seul tenant. Mais, à la fin, un spectacle nouveau apparut aux confins de la lumière à présent faiblissante. Sur un monde normal, ça aurait été un horizon. Tandis qu'ils en approchaient, ils constatèrent que la plaine qu'ils foulaient se terminait abruptement. Ils étaient à proximité du bord de la mer.
« Plus que 100 mètres !» annonça une voix depuis le Moyeu. « Mieux vaut ralentir !»
Bien que cela fût encore à peine nécessaire, ils avaient devancé le conseil. Un abrupt vertical de 50 mètres séparait le niveau de la plaine de celui de la mer, si c'était bien une mer et non encore une plaque de cette mystérieuse matière cristalline. Bien que Norton eût inculqué à chacun la méfiance à l'égard des apparences sur ce monde étranger, bien peu doutaient que la mer ne fût de glace réelle. Mais quelle explication donner au fait que la falaise de la rive sud était haute de 500 mètres au lieu des 50 de celle-ci? Ils auraient pu se croire au bord d'un monde pré-galiléen. Leur ovale de lumière, coupé brutalement en avant d'eux, ne cessait de s'amenuiser. Mais au loin, sur l'écran curviligne de la mer, étaient apparues monstrueusement déformées leurs ombres, qui avaient été les compagnes de chacun de leurs pas sous le faisceau du réflecteur. Ils les ressentaient comme étrangères à eux-mêmes, maintenant que la pique de la falaise les rejetait loin d'eux. Elles auraient pu être des créatures de la mer cylindrique, s'apprêtant à accueillir ceux qui pénétreraient dans leur domaine. La situation qu'ils occupaient au bord d'une falaise de 50 mètres leur permettait pour la première fois d'appréhender la courbure de Rama. Mais un lac gelé dont la surface se refermait sur elle-même en un cylindre, cela ne s'était jamais vu. La perception s'y égarait et l'œil s'évertuait à trouver une autre interprétation. Il sembla au docteur Ernst, qui avait autrefois travaillé sur les illusions d'optique, qu'elle y voyait une fois sur deux la courbe horizontale d'une baie, et non une surface qui s'élançait vers le ciel. Il fallait, pour accepter cette perception, aussi vraie que fantastique, un réel effort de volonté. Seul ce qui se trouvait exactement sur la ligne de fuite parallèle à l'axe de Rama gardait une apparence normale. Dans cette direction seulement s'accordaient logique et vision. Là, tout au moins sur quelques kilomètres, Rama paraissait plat et était plat. Et au loin, au-delà de leurs ombres difformes et de la limite extérieure du faisceau de lumière, était l'île qui dominait la mer cylindrique. «
Base du moyeu ?» demanda par radio le docteur Ernst. « Pourriez-vous diriger le réflecteur sur New York ?»
La nuit de Rama tomba soudain sur eux, tandis que l'ovale de lumière glissait sur la mer. À la pensée de la falaise, désormais invisible à leurs pieds, ils reculèrent tous de quelques mètres. Puis, comme par quelque irréel changement de décor, les tours de New York jaillirent à leur vue. La ressemblance avec le vieux Manhattan n'était que superficielle. Cet écho stellaire du passé de la Terre avait son identité propre et singulière. À mesure que le docteur Ernst la regardait se renforcer en elle, la certitude que ce n'était en rien une ville. Le vrai New York, comme toutes les habitations humaines, n'avait jamais été terminé. Ceci, en revanche, était tout de symétrie et de modules, mais d'une organisation si complexe qu'elle décourageait l'esprit. Cela avait été conçu et planifié par une intelligence hautement directive, puis construit et achevé comme une machine vouée à quelque fonction précise. Après quoi, n'était plus possible ni croissance, ni changement. Le rayon du réflecteur parcourut lentement ces lointains édifices, faits de tours, de dômes, de sphères enchevêtrées et de conduites entrecroisées. Par instants, une surface réfléchissante leur décochait un trait de lumière. Le premier de ces éclats les prit tous au dépourvu. C'était comme si, sur cette île étrange, quelqu'un leur faisait des signaux. Mais tout ce qu'ils avaient devant les yeux pouvait se voir avec un plus grand luxe de détails sur les photographies prises depuis le moyeu. Quelques minutes plus tard, ils appelèrent pour que la lumière revînt sur eux et, longeant le bord de la falaise, se mirent en marche vers l'est. L'hypothèse fort plausible avait été avancée qu'il devait bien y avoir quelque part, descendant vers la mer, un quelconque escalier ou une rampe inclinée. Et une des femmes de l'équipage, navigatrice invétérée, avait émis un avis intéressant.
« Puisque mer il y a, » avait annoncé le sergent Ruby Barnes, « attendons-nous à trouver des docks, des ports et des vaisseaux. On peut tout savoir d'une civilisation en étudiant la construction de ses bateaux. »
Ses collègues pensèrent que c'était un point de vue bien partiel, mais qu'il avait le mérite d'être stimulant. Le docteur Ernst avait presque abandonné toute recherche et s'apprêtait à effectuer la descente en rappel lorsque le lieutenant Rodrigo repéra l'étroit escalier. On pouvait aisément passer sans le voir, car l'angle de la lumière laissait dans l'ombre la paroi de la falaise. Rien, de surcroît, ne signalait sa présence, pas même une main courante, et il semblait ne mener nulle part. Il descendait, selon un angle assez raide, les 50 mètres d'à pic et disparaissait sous la surface de la mer. Ils balayèrent de leurs lampes frontales la volée de marche, n'y décelèrent pas d'embûches, et le docteur Ernst reçut du commandant Norton l'autorisation de descendre. Une minute plus tard, elle posait un pied circonspect sur la surface de la mer. Son pied glissa d'avant en arrière, sans éveiller ni résistance ni frottement.
ce matériau se comportait exactement comme de la glace. C'était de la glace. Lorsqu'elle la frappa de son marteau, les craquelures familières déployèrent leurs ramifications depuis le point de choc et elle n'eut aucune difficulté à prélever autant de fragments qu'elle en désirait. Quelques-uns avaient déjà fondu lorsqu'elle présenta la boîte à échantillons à la lumière. Le liquide avait l'aspect d'une eau légèrement trouble. Elle le renifla précautionneusement. « Pas de danger ?» demanda Rodrigo depuis le bord de la falaise et avec un rien d'inquiétude dans la voix. « Écoute, Boris, » répondit-elle, « la présence de germes pathogènes qui auraient échappé à mes détecteurs est aussi probable que la résiliation de nos contrats d'assurance la semaine dernière. » Mais Boris avait un argument. Malgré tous les tests effectués, un léger risque persistait que cette substance fût toxique ou porteuse de quelque maladie inconnue. En temps normal, le docteur Ernst n'aurait pas pris ce risque, si réduit fut-il. Mais là, le temps imparti était bref et les enjeux énormes. Même si l'Endeavor devait être mis en quarantaine, ce serait un prix dérisoire à payer pour le savoir que renfermeraient ces flancs.
C'est de l'eau, mais je ne me risquerai pas à en boire. Elle sent la vieille culture d'algues qui a mal tourné. Je meurs d'impatience de la porter au labo.
La glace peut-elle nous supporter?
Elle est solide comme le roc.
Nous pouvons donc aller à New York.
Tu crois ça, Pieter? Tu as déjà essayé de faire 4 kilomètres à pied sur de la glace?
Oh, oui, bien sûr. Imagine ce que dirait le matériel si nous demandions des patins à glace. Nous ne serions pourtant pas nombreux à savoir tenir dessus, si toutefois nous en avions à bord.
Et ce n'est pas tout, intervint Boris Rodrigo. Vous rendez-vous compte que la température est déjà supérieure à 0? Cette glace va fondre d'ici peu. Combien y a-t-il d'astronautes capables d'un 4000 mètres à la nage? Pas moi, en tout cas.
Le docteur Ernst rejoignit ses compagnons au bord de la falaise et brandit triomphalement la petite éprouvette.
« C'est un bien grand déplacement pour quelques centimètres cubes d'eau sale, mais elle peut nous en apprendre plus que tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici. Allez, on rentre !»
Ils firent face aux lointaines lumières du moyeu et se remirent en route au lent galop qui s'était révélé être, par cette moindre gravité, la démarche la plus praticable. Ils se retournèrent souvent, attirés par l'énigme cachée de cette île au centre de la mer gelée. Une fois seulement, le docteur Ernst crut faiblement sentir un souffle de vent sur sa joue. Mais une fois seulement, et bientôt, elle n'y pensa plus.